Et je passe au point suivant. En l'absence de Monsieur Koenig, je vais rapporter moi-même. Il est toujours au conseil départemental. Je viens d'ailleurs d'apprendre, je vous donne l'information, puisque vous aviez un point d'hiver en début, qui était un point d'information sur les 10 millions d'euros. Le conseil général vient de voter à l'unanimité le versement des 10 millions d'euros à la SPL Centre de Congrès, à l'unanimité, présidée par notre collègue Thierry Jean. Voilà. Donc c'est une information qui vient compléter celle que je vous avais donnée tout à l'heure. Alors, voilà. Alors, s'agissant de l'avis sur le projet de schéma départemental d'accueil et d'habitat des gens du voyage, alors il s'agit d'un sujet qui est très compliqué, très délicat. Je vous rappelle quelle est la règle qui a été obtenue à travers la loi Besson. La règle, il y a longtemps, la règle dit toutes les communes de plus de 5000 habitants doivent avoir une aire de stationnement de gens du voyage de 20, 40 places, etc. Et quand c'est une ville plus importante, deux aires de stationnement de gens du voyage. Et puis, par territoire, et là la notion de territoire est beaucoup plus floue, par territoire, il faut des aires de grand passage. Et jusqu'à présent, le document départemental nous indiquait une aire de grand passage dans l'espace de Metz, et en gros de Metz Métropole, et une aire de grand passage au nord, dans l'aire de Mézières, Talange à Gondange, etc. Et on a eu un certain nombre de réalisations, on a eu un certain nombre de dégradations, mais elles ne sont pas négligeables, et on a eu un certain nombre de non-réalisations. Et en même temps, la loi a changé, puisque maintenant, ce sont les intercommunalités, à savoir, en ce qui nous concerne, Metz Métropole, qui est en charge de la gestion, d'abord du grand passage jusqu'à présent, et maintenant de la totalité du problème. Et donc, aujourd'hui, nous avons à donner un avis sur un schéma, lequel schéma a été discuté par deux partenaires, essentiellement l'État et le Conseil départemental, sachant que nos représentants ont été présents à ce tour de table et que chacun a convenu que la situation actuelle ne pouvait pas durer. Pourquoi ? Parce que le préfet, argué du fait qu'il manquait ici et là une installation correspondante à la règle que je vous ai indiquée au début de mon propos, pour expliquer qu'il ne pouvait pas intervenir sur les stationnements irréguliers et illégaux qui avaient lieu dans la mesure où il y avait encore des problèmes à régler dans l'environnement immédiat. Ceci aboutit à quoi ? Ceci aboutit à ce que nous ayons d'extrêmement graves difficultés partout avec le stationnement sauvage de gens du voyage. Nous avons eu un bel exemple cet été pour rester sur Metz. Après avoir mis des fossés infranchissables, des barrières lourdes et alourdies par des énormes blocs de béton, nous avons eu une invasion autour de Centrale Supélec, du lycée de la communication. Et j'ai eu pendant tout l'été des SMS du directeur de Centrale Supélec m'expliquant que pour les délégations étrangères qu'il recevait, pour les activités qu'il avait, Georgia Tech, etc., c'était désastreux comme présentation. Et oui, nous avons une responsabilité commune à assumer. Alors, où en sommes-nous ? Où en sommes-nous ? S'agissant des aires de grand passage, la Metz Métropole va devoir faire une aire de grand passage. Jusqu'à présent, la ville de Metz avait accepté que le terrain dit de Sautrameuse, serve d'aire de grand passage provisoire pour l'agglomération. Il se trouve simplement que ce terrain a été vendu. Ce terrain a été vendu à un opérateur automobile et que donc des travaux vont avoir lieu sur ce terrain qui n'était pas un terrain destiné à faire une aire de grand passage, mais qui était simplement un terrain en attente d'une affectation et de nature économique. Et donc, l'agglomération est en train de réfléchir, mais devra faire une aire de grand passage. Et un des endroits qui est envisagé, mais ce n'est pas dit que ce sera celui-là, mais il avait déjà servi une année, c'était le terrain de Tournebride à Moulins, au voisinage du Cora Moulins, ancien terrain appartenant à l'armée, qui a été complètement vandalisé la première fois qu'on a installé des gens du voyage à l'occasion d'un pèlerinage, je crois, dans les environs. Alors, S'agissant des communes de l'agglomération, je vais vous la faire la plus courte possible, les communes de l'agglomération, il y a 4 communes qui sont dans l'obligation de faire une aire de passage. Je n'ai pas dit de grand passage, mais j'ai de passage. La ville de Metz avec 2 emplacements, la ville de Moulins et Montigny et Marly. Ça fait 5 communes, excusez-moi, 5. Montigny et Marly en ont fait une ensemble. Ils la gèrent tant bien que mal, c'est pas simple, mais ils la gèrent à l'extrémité de Marly, mais c'est mutualisé Montigny et Marly, donc ils ont fait leur boulot. Moulins n'avait rien fait. Et la ville de Metz a une aire de passage qui est à l'extrémité de la ville Bida, que vous connaissez, en 2 morceaux de 20 places, et puis une autre qui avait été imaginée à Magny. Pour l'instant, avec des manifestations, etc., vous vous souvenez, à côté de l'ancien shoot de Magny, là, de l'autre côté de la voie ferrée. Les réflexions sont en cours à Metz Métropole, avec bien sûr l'avis de chacune des communes, pour savoir si on n'est pas en train de chercher un deuxième emplacement sur Metz. Ça pourrait être à l'extrémité de la Petite Veuve, sur un terrain qui est disponible. Il n'est pas dit absolument que ce sera Magny. On est en train de réfléchir avec Metz Métropole. Il faut aussi trouver des solutions sur Moulins et trouver une aire de grand passage. Mais ce que je peux vous dire, c'est que si nous n'adoptons pas ce schéma et si nous ne le mettons pas en œuvre, il n'y a aucun préfet qui nous viendra en aide pour nous débarrasser des stationnements indélicats et sauvages que nous avons en permanence. Et c'est un véritable fléau, puisque quelquefois c'est les terrains de foot, quelquefois c'est les prairies. On en a eu également à Magny, au bord de la Seille. Souvenez-vous, il y a un espace qui est assez agréable là, qui a été envahi. Donc je me fais l'avocat de tous les gens un peu responsables qui essayent de regarder la réalité en face. Les préfets s'abriteront derrière nos insuffisances pour nous expliquer qu'ils ne veulent pas intervenir. Mettez-vous à leur place, c'est pas tellement drôle d'envoyer des CRS pour vider des caravanes. Et en général, ça ne se passe pas bien. D'autant plus qu'il y a des pratiques culturelles pour des gens du voyage qui n'ont pas forcément les mêmes procédés d'hygiène que d'autres citoyens du monde. Donc tout ça, c'est pour vous expliquer que c'est un bon projet, c'est le moins mauvais possible. Il faut l'adopter et il faut regarder en face cette réalité. Il y a des gens du voyage. Il y a même des gens du voyage qui habitent dans nos résidences et dans nos HLM, mais qui, l'été venu, retrouvent l'habitude de voyager, mettent en route leur caravane et se retrouvent ensemble et font un parcours. Sachez que ce sont des gens d'ici. Il ne s'agit pas de gens qui viennent de loin, c'est autre chose que les Roumains qui sont au bord de la Seille dans la cabane qui a été, dans les cabanes qui ont été construites. Ce sont des gens qui sont d'ici, qui sont des citoyens français dans la quasi-totalité et qui ont cette habitude de circuler l'été. Pour des raisons, comme le dit Richard Lioget à côté de moi, in petto, pour des raisons culturelles. Voilà pourquoi je pense qu'il faut adopter et regarder en face nos réalités et adopter ce rapport. Voilà, la motion est en conséquence. Qui a demandé la parole? Je regarde. Excusez-moi. Ah, c'est là. Ouf. Alors, il y en a beaucoup. Madame Grollet.
Oui, monsieur le maire, comment ne pas souligner les carences de l'État qui se défausse sur les collectivités d'une situation qu'ils ne gèrent absolument pas. Je pense évidemment d'abord au terme de respect des lois, d'insécurité, toutes les différentes choses qui font que chaque commune redoute de voir arriver une installation sauvage. On a également le chantage que vous avez décrit. Sur les aires de grand passage. Le schéma nous présente ça comme une logique préventive, donc pour écarter toute occupation illicite, je cite, sur les terrains publics ou privés. C'est une logique préventive, mais où finalement le grand perdant, c'est la commune. Puisque donc le maire ne peut obtenir d'évacuation s'il ne remplit pas les obligations qui lui sont imposées par l'État. C'est aussi le grand perdant pour la charge financière, puisque le coût d'aménagement est très important pour les collectivités et que la subvention de l'État ne couvre absolument pas le montant nécessaire. C'est encore une situation injuste, surtout que maintenant l'aide dépend du taux d'occupation effective. Donc nous avons encore perdu des aides, des dotations de l'État à ce sujet. Et il faut savoir que notre secteur fait l'objet de stationnements sauvages particulièrement récurrents parce que c'est une zone frontalière qui est plus attractive économiquement, qu'il y a des gens qui trouvent du travail de l'autre côté de nos frontières et qui résident en Moselle-Nord et dans les environs de Metz. Donc nous sommes encore plus impactés. Et voilà que maintenant, on nous présente donc des orientations stratégiques pour 2017 jusqu'à 2023 qui nous demandent la réalisation de cette aire d'accueil sur Metz et d'une aire de grand passage, avec le risque que si nos collectivités, Metz comme Metz Métropole, ne font pas le travail, on risque de se voir imposer un projet comme celui qui a été soutenu il y a peu par Metz Métropole qui concernait notamment la petite commune de Coincy. Metz Métropole a fait volte-face sur ce sujet, mais si le préfet décide du fait de nos carences, bien on sera encore une fois, on est l'objet vraiment d'un chantage. Donc, vous nous avez parlé de la nouvelle aire qui sera nécessaire sur Metz. Je me posais la question de savoir si le point 12 qui est présenté donc ultérieurement concernant l'achat de terrain et de maisons rue de la Vachotte signifie qu'on réserve des espaces justement pour ce projet éventuellement à Magny. Et je voulais également qu'on soit attentif, je termine, à l'avis de conseils municipaux de l'agglomération et du département qui ont émis un avis défavorable sur ce schéma départemental pour signifier donc leur désaccord avec ces manières d'agir de l'État. Je vous remercie.
Merci, monsieur Aldrin.
Oui, merci, monsieur le maire. Écoutez, puisque c'est la loi, même si elle est mauvaise, il faut l'appliquer. Et effectivement, ce raisonnement consistant à dire si nous ne faisons pas ce schéma, nous n'interviendrons pas, enfin nous, l'État plus exactement, sur des problématiques, bon, c'est quand même un raisonnement qui est assez limite, moi je trouve. Ce qui veut dire qu'on doit rappeler en la matière, la société à laquelle moi je crois sur cette question-là, c'est la société des droits et des devoirs. C'est-à-dire que moi je veux bien qu'on demande maintenant aux intercommunalités, notamment de gérer ces dossiers dans l'investissement, mais vous savez, quand vous aurez toujours, même lorsqu'on sera au clair sur le schéma, des personnes qui s'installeront en dehors parce que c'est pas bien, ça leur convient pas, etc. Il faut exiger aussi que le moindre litre d'eau, le moindre kilowattheure d'électricité ne soit pas à la charge de la collectivité des contribuables, mais des personnes qui l'utilisent. Et ça, je pense qu'il faut aussi le rappeler avec fermeté vis-à-vis de l'État qui parfois ne l'est pas. Ça, permettez-moi de vous le dire de manière, je dirais, assez ferme. Et vous me permettrez, monsieur le maire, un cavalier sur un sujet qui ne concerne pas les gens du voyage, mais qui concerne malgré tout l'occupation du domaine public, je voudrais parler du camp des réfugiés de Blida. Et ce camp, monsieur le maire, je crois, c'est une honte pour la République française. Une honte, puisque sur les questions sanitaires, et notamment les questions sanitaires, vous n'avez plus d'eau chaude, d'après mes informations, vous n'avez plus d'électricité la nuit, il commence à faire froid la nuit, vous avez des enfants qui sont dans des conditions sanitaires épouvantables. Et puis, d'après mes informations toujours, il y a, sur ces 600 personnes, 150 qui ont reçu une obligation de quitter le territoire. C'est-à-dire des personnes qui ont épuisé tous les recours pour rester sur le sol de la République française et que l'État, finalement, autorise de rester, c'est-à-dire autorise une certaine forme d'illégalité, ce qui est insupportable en termes de laxisme affiché par la puissance publique. Et c'est nous, c'est vous, monsieur le maire, lorsque vous avez des articles de presse, le camp de réfugiés de Blida, aussi, qui en pâtissons. Alors, monsieur le maire, moi, je demande le démantèlement de ce camp. Et si vous souhaitez aller sur cette position, nous vous suivrons puissamment, puisque c'est une question à la fois de respect d'autorité de l'État, mais aussi de respect tout simplement de la dignité humaine pour un certain nombre de personnes.
Oui, pas grand-chose à dire de plus sur effectivement le chantage permanent qui devient assez insupportable. Mais moi, je voulais aussi dire un mot sur le camp de Blida. Je m'étais exprimée assez souvent sur ce sujet, notamment au conseil départemental. C'est vrai qu'on ne peut pas laisser près de 700 personnes. C'est près de 700 personnes. C'est-à-dire qu'il y en a moins aujourd'hui il y en avait moins à Calais qu'il y en a aujourd'hui à Metz. C'est quand même terrible. 700 personnes, des enfants qui vivent au milieu des ordures, dans des conditions d'insalubrité totale. Je crois qu'on ne peut pas accepter d'avoir ça à quelques mètres des lieux emblématiques de notre ville où se déroulent les festivités estivales. Ça, ce n'est pas possible. Donc, je voulais dire un mot là-dessus. Donc, je rejoins tout à fait ce que disait Jérémy Aldrin, qu'on a déjà demandé, le démantèlement de ce camp qui doit se faire dans les plus rapidement possible. Et puis, je voulais aussi parler de ce bidonville terrible qui est rue Louis le Débonnaire. Je ne sais pas si certains d'entre vous y vont, mais enfin, je vous conseille quand même d'aller y faire un saut, de temps en temps, et de voir dans quelles conditions vivent les gens. Bah, je veux dire, on laisse aujourd'hui se créer dans notre ville des bidonvilles. Alors, les personnes qui ont acheté au coteau de la Seille ou qui vivent au coteau de la Seille, ils sont vachement contents. Ils se mettent sur leur terrasse et ils ont la vue sur ce bidonville et sur les personnes qui vivent dans des conditions épouvantables. Je ne sais pas, moi, on parlait des enfants sur les écrans, mais enfin, il faut regarder aussi ce qui se passe juste à côté de chez nous. Est-ce que vous avez vu les conditions dans lesquelles vivent ces gens-là? On ne peut pas laisser les choses en l'état. J'avais soutenu Raphaël Pitti lorsqu'il s'était exprimé là-dessus, qu'il disait effectivement on ne peut pas laisser des enfants dormir dans la rue, mais on ne peut pas laisser non plus des bidonvilles se créer comme ça dans notre ville.
Oui, monsieur le maire, moi je ne rajouterai rien parce que je souscris complètement aux propos de mes deux collègues, Jérémy Albrin et Nathalie Collin-Osterlet, mais je voudrais dire que l'État, une nouvelle fois, ne fait pas son devoir dans cette affaire-là, et je voudrais simplement pour preuve que quand les élus se sont mobilisés sur l'affaire Gros-Tankin 2 cet été, oui, eh bien on a remarqué un sacré changement de la part de l'État et des exigences vis-à-vis des gens du voyage, voilà. Parce que Gros-Tankin 1 s'est extrêmement mal passé, voilà. Il faut le dire, et en revanche, le préfet mis en cause directement dans cette affaire a quand même exigé de la part des responsables, comme quoi eux aussi, il faut le dire, peuvent être responsables quand on leur demande d'être dans une société aussi de devoir et pas seulement de droit, comme ça a été souligné à l'instant. Et ça s'est un peu mieux passé, je dirais, que la dernière fois. Ça s'est même bien passé, même si on sait que ça sera la dernière fois. Enfin, monsieur le maire, on vous a soulevé des exemples de Blida et encore à l'instant dans le quartier des Hauts-de-la-Seille. Moi, je voudrais vous dire qu'à deux pas de chez vous, donc à deux pas de chez moi, je ne sais pas si ce sont des gens du voyage, si ce sont des gens en voyage, mais il y a le long de la Moselle des caravanes, j'en ai compté une quarantaine hier, les trois quarts immatriculés 57, d'ailleurs, parce que je me suis amusé à regarder d'où ils pouvaient provenir, qui sont actuellement sur les terrains que vous avez mis payants. On reparlera sans doute du stationnement, que vous avez remis payant le long de la Moselle. Mais ces terrains, monsieur le maire, payant, c'est le choix, on en reparlera sans doute, mais ce sont des places qui étaient très prisées, notamment par les étudiants, qui ne peuvent pas rentrer sur l'île du Saulcy. Et aujourd'hui, on est dans un contexte d'injustice particulière, puisque les premiers qui sont sur les stationnements en voiture peuvent être éventuellement verbalisés parce qu'ils n'auraient pas respecté la durée de leur temps de stationnement, alors que les seconds qui sont là depuis des jours et des semaines même entières, eh bien, ne sont jamais verbalisés. Donc il y a là aussi un principe de justice, c'est la République. C'est un dossier difficile, vous l'avez dit. C'est un dossier qui aujourd'hui est effectivement métropolitain. Mais je trouve qu'à l'heure actuelle, l'État n'a pas encore assez pris ses responsabilités dans ce domaine pour pouvoir et nous obliger à être et à prendre position sur un document qui, au demeurant, reste assez flou.
Oui, merci beaucoup, monsieur le maire. Je crois, si vous voulez, qu'aujourd'hui, nous demander d'adopter ce schéma, c'est sympathique. Sauf que on est dans un piège. Pourquoi ? Ben, tout simplement, vous lisez ce schéma, mais vous êtes capable de nous dire exactement où les aires vont être installées ? Non. Donc ça veut dire que c'est en quelque sorte, bah, quelque part, un chèque en blanc. Donc ça, c'est sympathique, c'est très bien, on respecte des choses. Mais un schéma départemental, ça se travaille. Un schéma départemental, ça se travaille avec les différents partenaires, et notamment l'État. Et lorsque vous nous dites, si on ne le fait pas, le préfet est en droit, mais naturellement, mais de toute manière... Enfin, écoutez, je crois qu'on n'est pas en train de découvrir le monde. Moi, je suis très heureuse d'entendre l'ensemble de mes collègues dire aujourd'hui Blida sur les coteaux de la Seille et tout ça. Mais attendez, quand moi je l'évoquais déjà il y a quelques années, on était en train d'être épouvanté. J'étais presque adhérente d'un parti d'extrême droite. Non, mais enfin, attendez, il faut être sérieux. Ça fait depuis des années que vous, comme nous, on demande à l'État d'intervenir. Donc le schéma départemental, moi, je regrette, mais je ne le voterai pas, tout simplement parce que je ne vote pas les yeux fermés, quelque chose que j'ignore. Enfin, attendez, c'est quoi ça? Mais c'est se foutre du monde. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, il y a un autre aspect, moi, qui me dérange beaucoup. J'ai voté contre la loi NOTRe, dont l'une des conséquences est de globaliser les obligations des villes de plus de 5000 habitants sur l'ensemble de l'intercommunalité. Cela conduit effectivement à reporter abusivement sur les petites communes les obligations de la ville. Et on a eu ce problème il n'y a pas longtemps, hein, et la commune de Coincy a été confrontée tout d'un coup à un problème face à une éventuelle aire de passage où on disait 150 caravanes. Quand moi je disais 200, parce que effectivement dans le schéma départemental, l'aire de grand passage, c'est un minimum de 200 caravanes. 200 caravanes au bas mot, quand on veut pas grossir les chiffres, 200 multiplié par 3, ça fait 600 personnes. Et c'est rarement que 3 personnes dans une caravane. Donc, monsieur le maire, moi je comprends que vous ayez des soucis par rapport à vos demandes lorsque des terrains sont envahis, mais simplement, ce n'est pas en votant comme ça, les yeux fermés, un schéma qui est sympathique, hein, les aires du voyage, améliorer le schéma, améliorer les capacités d'accueil, c'est du préchi préchat. Mais aujourd'hui, la réalité, c'est que on n'a rien de concret. On a, vous avez évoqué Magny, vous avez évoqué la Petite Oeuvre, vous évoquez des terrains. Non, mais attendez, vous voulez avoir des levées de boucliers dans chaque quartier parce qu'à un moment donné, vous allez évoquer un quartier. Non, mais stop. Je crois qu'il faut être sérieux. Et si le préfet veut vraiment, et si le département est sérieux, il donne un schéma avec des lieux qu'il a travaillé avec les élus, mais pas un chèque en blanc. Moi, je ne vote pas un chèque en blanc, et là-dessus, je ne voterai pas ce schéma. Merci beaucoup.
Oui, les gens du voyage collectionnent des exclusions qui rappellent des temps très noirs. Nous devons en même temps éviter les abus d'usage de l'espace public, mais aussi leur offrir des conditions dignes de transhumance sur notre territoire pour les sortir de ce statut de paria, alors qu'ils ne sont que des nomades, donc des gens qui veulent vivre de manière différente, mais pas hors de la société. Il faut donc saluer les initiatives prises par Metz pour des accompagnements de ces populations aux problématiques complexes. Je vous remercie.
Merci. Il reste Madame Kosik.
Oui, merci Monsieur le maire. Vous disiez, vous avez présenté la délibération que c'est un sujet complexe. C'est un sujet complexe, mais c'est aussi un sujet très politique qui préoccupe nos concitoyens. On n'a qu'à voir d'ailleurs toutes les aventures médiatiques dans la presse. Vous en avez cité quelques-unes, il y a aussi Gros Tankin, on en a parlé, et puis c'est aussi un sujet qui provoque régulièrement les réactions des maires des communes quand il y a des décisions d'installation. De quoi s'agit-il en fait? Cela touche à l'occupation de l'espace public et à son partage, avec effectivement, comme vient de le dire Guy, des personnes, des communautés, dont les modes de vie sont très éloignés des nôtres et que nous considérons souvent, parfois à raison d'ailleurs, comme des risques potentiels. Alors ce schéma, c'est un engagement. Moi, je ne suis pas d'accord. On ne peut pas dire à la fois à l'État et au département d'ailleurs laisser travailler les communes et en même temps leur dire désigner l'endroit où ça doit se faire. Ça, c'est impossible. Un schéma, c'est là pour donner un cadre. Après, c'est aussi aux collectivités ensemble de travailler ces questions-là. Ah ben, parce que c'est un travail compliqué.
Laissez parler Madame Kosik, s'il vous plaît.
On ne peut pas dire que rien n'a été fait. On ne peut pas dire que rien n'a été fait, puisqu'il y a déjà des aires qui existent. Il y a un travail qui a été fait entre Marly et Montigny, etc. Tout ça va avancer. C'est compliqué. Mais je rappelle simplement qu'aujourd'hui, c'est effectivement une responsabilité intercommunale et que d'ailleurs, c'est une des thématiques du programme local de l'habitat. C'est une des thématiques du PLH. Donc les élus ont décidé de mettre cette question dans le PLH. Parce qu'on est bien là, dans une question qui touche à l'habitat de certaines communautés. Alors, la ville de Metz, vous l'avez dit, monsieur le maire, a réalisé une partie seulement de ses objectifs en créant une aire de 40 places. Il y a effectivement une seconde aire à créer, sachant qu'aujourd'hui, la question, elle est intercommunale et qu'effectivement, il y a un besoin, je crois, de 200 places d'une aire de grand passage. Alors, il y a un premier travail qui a été réalisé par les élus de Metz Métropole sur la question de la répartition des charges. C'est une première question qui est liée à la gestion. C'est dans le cadre de la fameuse commission de transfert des charges où, effectivement, ça a permis aussi un premier échange concret des élus sur cette question. Moi, j'espère en tout cas que cela préfigure, au-delà des questions de gestion, qui sont des questions réelles, la poursuite, effectivement, d'un dialogue intercommunal sur un sujet qui touche à nos valeurs et à celle d'une démocratie capable de partager son espace public dans le respect des droits de chacun.
Merci, madame. Je voudrais vous dire que je suis un peu navré de ce débat parce que, effectivement, c'est un débat qui n'est pas simple, mais la qualité des personnes qui sont ici autour de la table m'amenait à penser que on n'arriverait pas à être sur des positions aussi simplistes. Je voudrais vous dire que les communes de Metz Métropole ne sont même pas aussi rigoureuses que les positions que j'ai entendues aujourd'hui. Je vais vous citer ce qui s'est passé pendant la clète à laquelle Madame Kosik a fait allusion. Il y a un sénateur qui s'est présenté à cette clète, un sénateur que Mme Zimmermann connaît bien, et qui est élu d'une commune de Metz Métropole. Et il a expliqué au maire qui était là, « Mais voyons, messieurs les maires des petites communes, ne vous laissez pas imposer le moindre transfert de la part des quatre communes qui, par la loi, doivent faire une aire de stationnement de gens du voyage. » Et il a proposé une motion dans ce sens en disant « Laissez-les tout payer, Metz, Moulins, Montigny. » Oui, oui, je parle d'un quelqu'un que vous connaissez bien, madame. Et... Non, je n'ai pas dit qu'il était maire, j'ai dit qu'il est élu dans une commune de l'agglomération. Il est absolument élu dans une commune de l'agglomération. Et il représentait cette commune à la clète, justement. Et les maires lui ont dit « Mais, monsieur le sénateur, nous aussi, nous avons des caravanes qui viennent chez nous. Ce n'est pas parce que la loi ne nous demande pas de faire des aires de stationnement de gens du voyage que nous n'avons pas les inconvénients. Quand il n'y a pas d'aires de stationnement, on les a chez nous. Et donc, nous, on se sent solidaires de Metz, de Moulins, de Marly, de Voipy, de toutes les communes de 5000 habitants. » Et il a eu une voix, la sienne, dans sa proposition. C'est-à-dire qu'il n'a pas réussi à entraîner derrière lui les maires des petites communes qui auraient voulu repousser le problème en disant « Débrouillez-vous les grosses !» Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tout le monde a le problème. Et oui, c'est ce qui est arrivé. Tout le monde a le problème, y compris les communes qui ne sont pas concernées par l'hébergement sur leur banc de telle ou telle quantité. Ça, c'est une première chose. Deuxièmement, je suis d'accord pour être exigeant avec l'État. Mais je considère, pour ma part, qu'on doit aussi avoir des réponses. Et Metz Métropole a fait face, depuis quelques années, courageusement, à la situation en ce qui concerne les aires de grand passage. Je le dis parce que, quelquefois, je peux me plaindre. Là, ce n'est pas vrai. Il y a eu une volonté de Metz Métropole de faire face pour les aires de stationnement de grand passage parce que tout le monde a les conséquences si on n'a pas une proposition à faire. Et moi, j'aurais tendance à dire que c'est bien joli. J'ai écouté, tant qu'on n'a pas indiqué où c'était, on ne va pas voter. Mais attendez, le vrai problème, il est que c'est justement la difficulté. Si c'était si simple que ça, et donc le fait de dire « tant que je n'ai pas les lieux, je ne vote pas », et en même temps, je vais, dès qu'il y a un lieu qui est proposé, en disant « surtout ne prenez pas ça », ils veulent vous filer ça. Mais à Coincy aussi, ils ont des caravanes sauvages. Il y en a partout. Et sur le terrain qui était envisagé par Metz Métropole à un moment donné, et où le sénateur Roudier, parce que c'est l'autre sénateur, était parti expliquer, parce qu'il était en charge justement du logement, et donc... comme l'a dit Madame Kosik, des problématiques de caravanes, eh bien, effectivement, il y a eu le refus. Mais débrouillez-vous, on ne veut pas de vos caravanes chez nous. Et donc, moi, je fais partie de ceux qui regardent ce problème en face et qui ne diraient pas, je ne serai pas de ceux qui diront, c'est chez les autres, je n'ai pas besoin de le voir. Et donc, c'est ce qui s'est passé à Coincy, madame. Et alors, je dirais, moi, que nous devons accepter courageusement de regarder ce problème en face. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas être exigeant avec l'État. Je le serai aussi, mais je le serai aussi quand on sera propre sur nous, au niveau de l'agglomération, et on a à regarder le problème en face. Et je dois vous dire une chose, c'est que le débat que nous avons ici, nous ne l'avons plus dans l'agglomération, sauf quelques maires encore, mais peu nombreux, parce qu'ils ont tous compris, à un moment ou à un autre, que si on ne règle pas le problème, tout le monde aura les ennuis, tout le monde aura les ennuis, pas seulement les communes qui sont concernées par la localisation. Maintenant, j'en reviens aux questions qui ont été posées par M. Aldrin et M. Thiel, qui étaient des questions intéressantes. Sur le clan de Vida, je ne suis pas plus heureux que vous de la situation. Je suis même très malheureux. Et je l'ai déjà expliqué, je l'ai dit hier à ma conférence de presse, ou avant-hier, je suis à ma conférence de presse, je suis très, très malheureux. Nous apportons un certain nombre de moyens qui relèvent de l'humanitaire à travers le CCAS, aux associations qui font le boulot. Il n'y a pas à avoir honte des humanitaires de Metz qui s'impliquent dans ce travail. Et je leur tire mon chapeau. Ils sont épuisés parce que finalement, ils rendent service à l'État. Ils rendent service à l'État. En même temps, chaque fois que j'ai le préfet, je lui parle du sujet. J'ai même eu l'occasion d'en parler avec l'actuel ministre de l'Intérieur, qui a des problèmes du même genre à Lyon, je vous le signale. Et avec les mêmes personnes venant d'Albanie. Il y a un vrai problème de fond, c'est celui de la possibilité pour les Albanais de circuler avec une simple carte d'identité dans tout l'espace Schengen et d'arriver dans un pays, quelquefois à travers des filières, par exemple la France, avec une demande de droit d'asile, en expliquant que chez eux, il y a des mafias, etc., ce qui est vrai d'ailleurs. À la sortie, ça va plus vite en Allemagne. Nous avons réussi à avoir, je le dis, c'est une information qui vous est donnée, que l'OFPRA délocalise à Metz un de ses bureaux de façon à accélérer les procédures. Et donc, ce qui a été dit tout à l'heure, qu'il y a 150 personnes, c'est vrai, qui sont munies d'un OQTF, c'est parce que l'OFPRA va plus vite et les procédures d'appel sont plus rapides. On n'est pas encore comme les Allemands, une semaine où c'est réglé, mais ça va plus vite. Et c'est donc une première étape. Sachant que par ailleurs, je vous le dis parce qu'il y a des avions tout le temps qui repartent en direction de l'Albanie et le préfet m'en informe. Et donc c'est une situation qui est très difficile, d'autant plus qu'on a à peu près globalement 3000 personnes, non pas à Metz mais dans un environnement un peu lointain, qui sont actuellement logées dans des conditions discutables, qui sont meilleures que celles qu'on a sur le camp de Vida, mais qui sont tout à fait anormales. Au bord de l'autoroute, vous en avez des deux côtés, vous les voyez, il y en a partout. Et donc c'est un problème qui est compliqué, et c'est un problème. Moi, je ne veux pas jeter la pierre à l'État. Je ne sais pas ce que je ferai, pas celui du préfet, parce qu'il y a eu des beaux efforts qui ont été faits. Les sommes consacrées au sujet sont considérables. Je refuse, mis à part à travers le CCAS, de mettre le doigt dans l'engrenage du financement. Parce que sinon, c'est nous qui allons devoir payer, alors que c'est une responsabilité de l'État. Et donc, je me suis expliqué. L'année dernière, on avait mis le doigt dans l'engrenage et hop, on recevait des trucs, vous avez mis ça, mais écoutez, c'est pour vous. Non, c'est terminé, on envoie les factures à l'État, parce que c'est l'État qui doit payer, hein, et là-dessus, je suis extrêmement ferme. Donc, je vous entends, je vous écoute, je vous comprends, mais c'est compliqué, et Metz s'est trouvé devenir une spécialité, puisqu'on était le point où c'était le point d'entrée, en fait, hein, c'est la plateforme d'accueil, voilà. Alors, Madame Kosik vient passer pour le savoir, pour des raisons professionnelles. Alors maintenant, je voudrais dire deux mots sur l'huile débonnaire. Ce n'est pas du tout la même chose. C'est des populations roumaines, qui vivent pratiquement dans les mêmes conditions dans leur pays, qui n'ont jamais été à l'école, vous m'entendez, qui n'ont jamais été à l'école alors qu'on est un pays européen, et qui sont chez nous en petit nombre. C'est une quarantaine de personnes. Le travail qui a été fait par le médecin général Pitti est exceptionnel. Il y a eu, oui, des constructions de baraques avec des systèmes de chauffage, des cuisines, des sanitaires. Ça a été fait dans une opération de collecte de fonds nationale qui a très bien marché. Il y a eu des architectes qui sont venus travailler sur le sujet. J'y suis allé un dimanche, c'était une véritable ruche. Et les conditions de vie de ces personnes par rapport à leur propre statut sont exactement conformes. Alors, c'est sûr qu'il y a des déchets autour et que c'est un problème d'évacuation parce qu'ils vivent en recyclant des choses. J'ajouterai qui a déjà quatre familles. D'abord, tous les enfants vont à l'école. Tous les enfants vont à l'école. Et croyez-moi, pour eux, c'est un véritable supplice, une véritable obligation insupportable. Tous les enfants vont à l'école. Ils vont à l'école au Sablon Sud. Deuxièmement, il y a déjà quatre familles qui ont été réinsérées dans le circuit professionnel parce que le père de famille a trouvé du travail et du coup, ils ont été installés dans des logements sociaux. Et on veille à ce qu'il n'y ait pas d'arrivée nouvelle parce que ce n'est pas du tout une filière, c'est une espèce de groupe homogène. Et donc, c'est un autre système complètement différent. Voilà ce que je voulais vous dire. Bien entendu, ça reste visuellement compliqué. Je l'admets, mais c'est pas du tout la même chose que ce qui se passe. C'est pas du tout la même chose que ce qui se passe. Maintenant, le dernier point, je suis entièrement d'accord avec Monsieur Thiel. Hein, cette surface, d'abord, il y a des caravanes qui sont là depuis longtemps. Il y a des gens qui habitent. C'est pas les mêmes. C'est des Roumains aussi. Il y en a une qui ont eu un bébé. Il était même baptisé à Saint-Clément. Je le connais bien. On les connaît bien. Il y a trois familles là-dessus et le reste, c'est des caravanes qui sont arrivées. On va mettre de l'ordre là-dessus. J'ai demandé à la directrice générale des services un plan sur cet aspect des choses. On reparlera certainement du stationnement, peut-être ce soir, j'en sais rien, ou dans un autre conseil municipal. Mais toujours est-il que c'est un endroit où il faut qu'on fasse un travail spécial, y compris d'ailleurs avec l'extension du camping. Voilà ce que je pouvais vous dire. Et je mets aux voix. Moi, je pense qu'il faut accepter ce schéma parce que nous n'avons pas d'autre choix si nous voulons être responsables avec nous-mêmes. Et je mets aux voix. Alors, explication de vote, bien sûr. Tout le monde peut expliquer son vote. On y va. Monsieur Aldrin.
Oui, merci, monsieur le maire. Effectivement, c'est une obligation légale, donc vis-à-vis de laquelle nous avons quelques réserves. Donc, nous ne prendrons pas part au vote. Et je reviens quand même sur ce que vous dites sur les 150 personnes qui ont l'obligation de quitter le territoire. J'entends qu'il y a un bureau de l'OFPRA qui accélère les demandes, mais je crois aussi que les départs doivent également être accélérés. Et là-dessus, je pense qu'il faut mettre davantage la pression. Je vous dis comme je le pense, vous avez probablement que vous appelez le préfet, je pense que vous êtes sensible, et je ne remets pas en cause là-dessus votre sensibilité sur la question, mais je pense qu'il faut faire davantage pression, puisque c'est juste insupportable cette situation.
Merci. Monsieur Lebeau.
Ce débat était très intéressant, mais le problème de la deuxième ère du passage, c'était si évidente. Vous êtes là depuis 10 ans, comme vous l'avez rappelé au dernier conférence de presse de mercredi dernier. Donc, vous auriez pu accélérer le processus. Et vous parlez de ce qu'a fait Metz Métropole, mais parlons de ce que vous n'avez pas fait. Vous ne l'avez pas fait, la deuxième ère. Et vous aviez eu tout le temps de la faire. Donc, c'est facile de dire que ce que dit Marie-Josée Zimmermann, c'est un peu facile de dire. Mais, monsieur le maire, vous ne nous avez pas démontré votre capacité à faire. Parce que la deuxième ère du passage, le projet Puma, hein, utile mais ailleurs. Personne ne la veut. Alors, vous avez mis en place une démocratie participative où c'est un peu facile, où on va chercher des millions, c'est qui veut gagner un million. Ça serait sympa plutôt de les faire travailler sur où on installe cette deuxième ère et la faire en assemblée plénière. Et là, je pense que c'est toujours facile de venir chercher des millions, mais chercher à installer une aire de passage, parce que visiblement, qu'on soit pour ou contre, il va falloir la faire. Donc, et je pense que là, c'est mettre de l'intelligence en commun et les gens face à leurs responsabilités. Voilà ma proposition. Je l'ai fait un cavalier.
Et qu'est-ce que vous votez ?
Je suivrai le vote de mes amis. Voilà.
Alors, monsieur Thiel, si jamais quelqu'un veut bien expliquer son vote.
Oui.
Mais non, parce que c'est pas très courtois de dire que vous faites une explication de vote sans nous dire ce que vous votez.
Oui. Monsieur le maire, moi, je voulais simplement dire que vous avez été un peu sévère. Moi, j'ai écouté ce que vous disiez toujours avec une très grande attention. Je ne mets pas du tout en cause votre manière de faire sur ces problèmes, même si je partage tout à fait le point de vue qui vient d'être exprimé, que depuis 10 ans, on aurait pu davantage avancer et être aujourd'hui à un autre point que celui où on est effectivement face à un blanc, comme on dit. Là-dessus, je voudrais vous dire qu'on a parlé des gens du voyage, on a parlé de certaines aires de stationnement et on a parlé à un moment donné des phénomènes migratoires. Là où je voudrais appeler l'attention, c'est qu'il faut toujours veiller à la justice et à l'application égale des lois. Cela dit, contrairement aux caricatures qu'on peut faire, je suis bien sensible aux phénomènes migratoires, qui n'ont pas un phénomène de l'Europe par rapport à l'Afrique, mais qui est un phénomène mondial. Et je crois qu'aujourd'hui, on est devant un grand défi, dont moi j'ai fait partie des groupes de travail il y a 20 ans sur le déséquilibre entre le Nord et le Sud, auxquels s'ajoutent les problèmes climatiques. on le sait bien aujourd'hui, et on est à la veille de très grands phénomènes migratoires. Et c'est pour ça que je crois que nous devons tous, avec raison, commencer à envisager ces problèmes, parce que ça me paraît extrêmement grave, et si possible, avec le maximum d'humanité, c'est ce qui a fait ce que nous sommes, j'imagine, mais aussi en parfaite conscience et en parfaite responsabilité, parce que il ne s'agit pas toujours de faire des murs, il faut aussi savoir faire des ponts.
Et quel est votre vote, monsieur?
Je vais vous le donner. Voilà. Alors, monsieur le maire,
je crois que normalement, un groupe, c'est une explication de vote. Hein.
Oui, bon, mais non, mais attendez, je pense, si vous voulez, que... Bon, on peut donner quand même certains points de vue, certaines propositions, et celle d'Emmanuel Lebeau est excellente. Et je crois, si vous voulez, que tant que nous n'avons pas satisfaction là-dessus, nous ne participerons pas au vote. Ça, c'est le premier point. Et deuxième point, je voudrais simplement saluer effectivement le travail qui a été fait par Monsieur Pitti, parce que le problème de Louis Debonnaire, il n'est pas actuel. Ça fait des années que ça dure. Et je pense qu'effectivement, il a géré au mieux de ce qu'il pouvait faire ce problème. Merci.
Donc, qu'est-ce qui est contre l'explication de vote? Allez-y, expliquez votre vote.
Oui, pour notre part, nous voterons contre ce schéma, puisque, comme cela a été dit, il ne dit rien. On peut difficilement être contre rien, mais c'est une façon d'expliquer que nous sommes inquiets sur les volontés réelles de l'État, du préfet, et que nous souhaitons qu'on anticipe enfin la situation. On sait que Metz est la plaque tournante où les gens viennent s'inscrire pour leur demande d'asile. Donc on aurait pu anticiper justement cet afflux et ne pas se retrouver tous les ans avec la même situation qui va se reproduire sans doute encore l'année prochaine, puisque les reconduites à la frontière ne concernent pas, même si on les accélère, ne concernent pas une grande majorité des personnes qui entrent illégalement. On aurait pu anticiper en maîtrisant nos frontières l'arrivée de personnes dont on sait pertinemment qu'elles n'ont pas, qu'elles ne seront jamais éligibles à la demande d'asile. Et concernant ceux dont on est censé parler aujourd'hui, les gens du voyage, qui sont pour la plupart français, il y a quand même un gros problème. On a parlé tout à l'heure donc du respect des droits de chacun, d'accord, mais quand l'État ne fait pas respecter tout simplement la propreté, la sécurité, comme lorsque ça a été évoqué lors de cette réunion à Coincy, les entreprises qui sont aux alentours de l'aire provisoire décrivaient les difficultés qu'elles avaient, les routes encombrées, je ne décris pas toutes ces difficultés, donc des entreprises, et on peut comprendre que chacun ne souhaite pas avoir un tel campement à proximité. Donc c'est un peu hypocrite peut-être de dire que vous auriez dû dans les dix ans précédents décider d'un lieu, parce qu'on sait très bien qu'il y aurait une levée de boucliers et que votre opposition s'y serait opposée aussi. Je crois que le problème, il est au niveau national d'abord, et que chacun doit prendre ses responsabilités. Pour notre part, nous avons depuis toujours demandé qu'on maîtrise nos frontières, qu'on fasse respecter la loi et l'ordre par tout le monde, y compris par ceux qui ont tout à fait leur place en France, puisqu'ils sont français eux-mêmes. Ça résoudrait beaucoup des difficultés autour desquelles on tourne actuellement. Donc nous votons contre.
Merci. Alors qui est contre? 1, 2, 3. Qui s'abstient? Il n'y a pas d'abstention. Qui prend pas part au vote? Voilà, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Très bien. Eh bien, le point est adopté. Par différence, je vous remercie.